Il était une fois un petit garçon élevé dans un garage où tout le monde aimait chanter. C'était en 1939, il aimait les marionnettes et les opérettes, et puis un jour, il a voulu faire du cinéma.
Aujourd'hui, Une vie, une œuvre rend un triple hommage à travers le portrait de Jacques Demy, proposé par Simone Dweck et réalisé par Pascal Rayet. Né en 1931 en Loire-Atlantique et décédé en 1990 à Paris, Jacques Demy est très tôt passionné par le monde du spectacle. À 13 ans, il se procure sa première caméra dans une boutique du fameux passage Pommeret à Nantes. Dans un studio du grenier familial, il réalise plusieurs films d'animation et présente un premier court-métrage en 1958 au Festival de Tours, où il rencontre celle qui deviendra sa compagne et complice, Agnès Varda, qui nous a quittés le 29 mars dernier. 1960, c'est l'année qui marque les débuts de la collaboration de Demy avec Michel Legrand, qui composera les musiques de ses films et signera pour 3 décennies de collaboration avec Jacques Demy, son frère de création. C'est grâce à leur passion commune pour le cinéma que Jacques Demy et Agnès Varda ont formé un couple de légende pendant plus de 30 ans. Après le décès du réalisateur, Agnès Varda lui rendra hommage dans 3 films. Elle disait « J'ai capté son être, ses cheveux comme un paysage, sa peau qui était un peu tachée, ses yeux qui regardaient au loin pour dire « Jacques est là pour toujours ».
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. One and bido, bido, one, nées sous le signe des Gémeaux. Je voudrais faire une répétition et on va tourner.
Jacques a fait, il avait peut-être 18-19 ans, son autoportrait, qui était un autoportrait qu'il avait donné à sa mère, que Agnès a récupéré, où Jacques ne montre qu'un œil, très ombré, l'autre très grave. Et c'est presque une vision de l'ensemble de l'œuvre de Jacques, je trouve. Ce côté joli, l'œil lumineux, et en même temps cette gravité du noir autour, vous voyez.
Moi, ce qui me frappe, c'est que son regard, comme il est précis, c'est vraiment le regard de Jacques, non ? Je trouve qu'il a bien su capter... son œil, qui est devenu un œil très important, parce que pour un metteur en scène, l'œil, c'est vraiment ce qui établit votre métier.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux.
Un arrêt sur image est un formidable révélateur de secrets. J'ai fait un arrêt sur image, je me suis trouvée dans un autre film. Catherine Deneuve s'apprête à mettre le pied dans la barque pour aller voir sa marraine, dans le parc du château de son père. Elle retient le tissu de sa robe pour être plus libre de ses pas. Elle est suspendue dans un mouvement gracieux. Elle n'est pas au premier plan et on voit d'elle 2 taches de couleur, le bleu de sa robe et sa blondeur. On dirait Josette Day dans La Belle et la Bête. L'instant d'avant, on avait quitté Jean Marais en roi superbe et élégant. Réminiscence et concordance, rien de gratuit. Demy rendait hommage à Cocteau en émaillant peau d'âne de citations. Il pouvait tout aussi bien dédier un film à Max Ophuls ou se référer à Robert Bresson. On connaît cette phrase de Cocteau. Le cinéma, c'est la mort au travail. C'est intéressant de regarder le cinéma de Jacques Demy en pensant à ces mots. D'entendre chanter la légère Lola Anoukémé, de voir danser dans un univers de couleurs acidulées Françoise d'Orléac, Catherine Deneuve, Gene Kelly et Georges Chakiris. Dans son essai cinématographique de fin d'études à l'école de Vaugirard, le jeune homme sur le point de se suicider, joué par Jacques Demy, entend quelqu'un faire des claquettes à l'étage au-dessus. Il lâche le verre de poison qui se brise. Le cinéma, c'est la mort au travail, c'est aussi l'art qui brave la mort. À propos d'un film où il avait fait de la figuration dans sa jeunesse, il se plaisait à rappeler... Ce qui m'a amusé, c'est de mourir à chaque plan. Le type qui meurt au premier plan à chaque fois, c'est moi. Jeu des répétitions. On raconte toujours la même histoire, disait Demy de ses films. Lui, cinéphile acharné comme ses contemporains de la nouvelle vague, il aimait s'en faire raconter sans fin, en allant au 14A, la salle qu'il adorait à Nantes. À nous de regarder ses histoires. Quelqu'un a dit de lui, il nous emmène, sans nous dire où, pour ne pas nous faire peur.
Vous êtes bon, mon cher père. Mais avant de vous épouser, je voudrais la peau de ce vieil âne qui est dans vos écuries.
Mon âne banquier, c'est impossible.
J'insiste, mon cher père.
Ça te plaît?
Bon, je ne peux rien vous refuser. Voilà, quelqu'un.
Arrête de gigoté ton majesté.
J'ordonne qu'on tue mon âme et qu'on apporte sa peau.
Son âme.
Ils vont pas le tuer quand même.
Oh, quelle horreur!
Monique Créteur de ce métier à la Maison de la Marionnette à Nantes. Et la Maison de la Marionnette est un peu l'héritière de ce théâtre guignol où allait Jacques Demy quand il était enfant.
Voilà, voilà. C'était le théâtre de mes parents qu'ils avaient créé en 38. Alors, c'était donc une baraque démontable. Enfin, elle faisait exactement 17 mètres de long sur 10 mètres de large. Ouais.
Et à l'intérieur. Couleur bordeaux.
Couleur bordeaux. Et puis, il y avait des bancs. Les enfants étaient assis sur des bancs, les grandes personnes aussi d'ailleurs. Ils s'entassaient, je peux dire qu'ils s'entassaient dans la baraque. Et Jacques Demy, nous sommes de la même année. Si bien qu'il aurait donc l'âge respectable de 77 ans maintenant, comme moi. Et il venait donc, petit garçon, avec son frère et accompagné de sa maman, bien évidemment. Il venait donc au Théâtre Guignol. Mais si vous voulez, moi, je n'ai appris cela que beaucoup plus tard. Un jour, en écoutant d'ailleurs votre chaîne, et j'entends Demy parler, disant, mais moi, mes premiers émois artistiques, je les ai eus au Guignol du Cours Saint-Pierre, chez les Créteurs, où je me souviens particulièrement, a-t-il dit, d'une peau d'âne. Alors, inutile de vous dire que ça m'a fait tilt. Alors, j'ai cherché ses coordonnées, nous sommes rentrés en rapport, et peu de temps après, il venait tourner à Nantes. J'étais pas là quand il a tourné Lola, j'étais à Paris à l'époque. Mais lorsqu'il a tourné Une chambre en ville, par exemple, on est rentrés en rapport et nous avons passé de longs moments ensemble. Voilà.
Je sais que le premier film après Conscient a été Blanche-Neige.
Jacques Demy, 1976.
Ça a été vraiment déterminant. Et déterminant au point que je voulais faire du dessin animé et des films de marionnettes, parallèlement. Et puis, si vous voulez, c'est ces impressions tellement fortes et tellement dramatiques de Blanche-Neige. Je sais, un détail comme ça curieux, j'avais tellement eu peur. Et je devais donc avoir 5 ans lorsque j'ai vu le film. Et je sais que j'étais coiffé d'un béret basque. Et je faisais tomber mon béret. Il me fallait une excuse, ce qui est très révélateur, c'est très curieux. Pour ne pas voir les images, pour pas qu'on me prenne quand même pour un peureux ou un quoi, je faisais tomber mon béret entre les fauteuils et je le ramassais pour ne pas voir ce qui se passait sur l'écran. Pour pas qu'on me dise, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as peur, tu regardes pas. Et en même temps, j'étais fasciné.
L'enfance de Jacques Demy, ce sont les premières racines.
Jean-Pierre Berthomé.
C'est-à-dire que on y trouve d'abord un milieu social auquel il demeurera extrêmement fidèle, qui est celui des petits métiers. Son père est garagiste, sa mère est couturière, sa grand-mère tenait un bistrot, pas très loin de Nantes. Et ce monde des petits métiers, eh bien, on regarde dans ses films et on y trouve effectivement des horlogers, des patronnes de bar, des quantités des vendeuses de parapluies.
Des garagistes.
Et des garagistes, bien entendu. Et puis, autre chose extrêmement importante, c'est la province. Et Demy est, dans cette génération qui sera celle de la Nouvelle Vague, un des très très rares cinéastes qui revendique absolument l'idée de ses racines provinciales, qui va se ressourcer en province, qui a envie de faire des films toujours sur la marge, sur la périphérie du centre. Et pourquoi la province? Alors, c'est pas n'importe quelle province, c'est un port, c'est-à-dire c'est à la fois un lieu clos, et dans ce lieu, au début des films de Demy, les gens arrivent et à la fin ils en repartent, mais c'est un lieu clos où il y a plein de gens qui vivent en rêvant d'en partir. Et le monde de Demy est fait de ces gens qui sont là, échoués, et qui ne désespère pas de prendre aussi la route comme les demoiselles de Rochefort à la fin ou comme tous les personnages à la fin de Lola. Donc et puis l'enfance de Demy, c'est aussi tous les spectacles de Guignol qu'il a vus à Nantes, il en a vu beaucoup. C'est aussi toutes les opérettes qu'il a vues. Moi, je me suis aperçu très, très tardivement, bien après avoir écrit mon livre, que, par exemple, il y a des couplets entiers des demoiselles de Rochefort qui sortaient de Mignon d'Ambroise Thomas, que personne ne connaît, mais que Demy avait vu au théâtre Gralin à Nantes.
Comme quoi, par exemple ?
Ah, c'est « Nous voyageons de ville en ville », ça sort directement d'Ambroise Thomas, de Mignon, ça s'en est même extraordinaire, mais personne n'a fait la relation, tout simplement parce que plus personne ne connaît Mignon.
J'ai pris une grande décision, je vais partir. J'étais au cinéma cet après-midi, j'ai vu un film avec Gary Cooper, c'était pas mal. C'était beau, les gens avaient l'air heureux.
Où ça ?
Au 14-1.
Je vous demande pas dans quel cinéma, je vous demande dans quel pays.
Ah, le pays, Matareva. C'est une île du Pacifique du côté de Tahiti.
Au cinéma, c'est toujours plus beau.
Quoi ?
Au cinéma, c'est toujours plus beau.
C'est la vie, c'est pareil.
Non.
Comment non ?
Non. Ici, on ne sait pas vivre.
Il y a un jeudi après-midi, en sortant du collège, je suis passé dans un passage qui s'appelle le Passage Pommeret à Nantes.
Jacques Demy.
Et dans ce passage, il y avait une boutique. Tenu par un vieux bonhomme, comme ça, avec une grande barbe, espèce de prophète curieux, très intéressant, qui vendait des jumelles, des appareils photo, appareils de cinéma, mais dans un bric-à-brac, c'était plutôt le marché aux puces. Et j'avise là un appareil que je n'avais jamais vu, qui était une caméra. Une petite boîte noire avec une manivelle. Je suis entré, j'ai demandé ce que c'était, comment ça marchait. Et j'ai compris que c'était comme ça qu'on enregistrait les films, qu'on faisait du cinéma.
Et il s'aperçoit que tourner avec les autres est très compliqué, et que le meilleur moyen de tourner, si on veut tout contrôler, c'est de faire du cinéma d'animation. Le demi-adolescent travaillait dans ce garage, plus exactement dans le grenier du garage, un grenier qui était un peu annexe, on y montait par une échelle, et effectivement, donc, dans les années 47, 48, 49, c'est là que Demy avait installé son atelier avec des petits projecteurs qui étaient des phares de voiture, avec des travelling qui étaient des patins à roulettes, entièrement artisanal. Et c'est au cours de cette opération d'exploration du grenier que, comme les archéologues atteignent des strates successives, eh bien, en dépouillant les strates successives du grenier, on a fini par arriver, et c'est là que je l'ai vu à ce moment-là, mais on a fini par arriver à des bobines de 9,5 mm de pâté baby. C'est là qu'on a retrouvé le fameux patin à roulettes qui avait servi de travelling. C'est là qu'on a retrouvé même les petites silhouettes découpées que Demy animait et qui n'avaient absolument pas été préservées comme des reliques, mais qui étaient là tout simplement parce que le temps était passé et que d'autres choses avaient sédimenté par-dessus.
Est-ce que tu viens avec moi ce soir au volet ?
Non, je ne peux pas.
Et toi, est-ce que tu y vas ?
Bien sûr.
Ou ben tout à l'heure m'a demandé de faire une heure de plus. Tu parles ? Ce soir, c'est sacré. Je vais au théâtre.
Qu'est-ce que tu vas voir ?
Carmen.
Pour être enfant de bohème, la 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 la.
J'aime pas l'opéra, le ciné c'est mieux.
Avant même de faire ses premiers billets courts-métrages, ce qu'il aurait voulu continuer à faire, c'est du cinéma d'animation. Et il va voir Paul Gribaud, donc le réalisateur du Roi et l'Oiseau. Grimaud, donc, donne un petit peu de travail à Demy, se lie d'affection avec Demy, mais en même temps le décourage de faire du cinéma d'animation en lui disant « c'est beaucoup trop compliqué pour gagner sa vie, ça réclame beaucoup trop d'abnégation, fais plutôt du vrai cinéma ». Et paradoxalement, ce qui intéresse Demy, s'il ne peut pas faire du cinéma d'animation, c'est de faire du documentaire.
Et ça, c'est un aspect de son cinéma qu'on connaît moins, effectivement.
Oui, mais son autre modèle, c'est un autre cinéaste moins connu, qui s'appelle Georges Rouquier, qui a fait un superbe film à l'époque qui s'appelle Farbi, qui a fait beaucoup de métiers sur les artisans. Et ça, c'est quelque chose qui intéressait beaucoup Demy. Et très tôt, quand il était enfant, il avait commencé, il connaissait très très bien, en particulier, il y a un artisan qui était un sabotier, et il avait commencé à filmer les gestes de ce sabotier, comme s'il devinait que c'était des gestes qui étaient menacés d'oubli. Et
qu'il pourrait
le scénario du sabotier du Val-de-Loire, c'est un scénario extrêmement abouti, un scénario extrêmement élaboré. Et Rouquier croit suffisamment à ce scénario pour produire ce film qui va faire de Demy quelqu'un d'instantanément, on va dire, modestement célèbre. C'est-à-dire, dans les milieux du cinéma, tout le monde repère immédiatement ce jeune homme qui n'a que 24 ans et qui vient de faire un court-métrage tout à fait exceptionnel. C'est une époque où Louis Malle, Alain Resnais, un certain nombre d'autres, Georges Franju, font des courts-métrages, et où le court-métrage, on le sent bien, c'est le terrain d'apprentissage de tous ceux qui vont devenir les grands cinéastes.
Ben voilà, le premier film que j'ai vu de Demy, c'est Le Sabotier du Val-de-Loire.
Yves Aumont.
On est à la fois dans le vert paradis de l'enfance, enfin bon, c'est Demy, réfugié dans une famille pendant la guerre, qui se remémore son enfance, enfin bon, cette espèce de parenthèse, non pas une parenthèse enchantée, à la fois une parenthèse enchantée et puis la prise de conscience de la mort. C'est un film très bizarre. C'est Demy dans toute sa à la fois cette espèce d'innocence légère et puis gravité. C'est-à-dire que j'ai pas, là encore une fois, j'ai pas revu le film depuis, mais je me souviens des gestes répétés du sabotier, qui est ce vieil homme. Je me rappelle de la mère, la grand-mère, donc plutôt, qui doit tuer un lapin. Et ce qui m'arrive là aujourd'hui comme première image, c'est ça, c'est pont de chemin de fer un peu plus loin sur la Loire. Paysage quasiment idyllique, souvenir d'enfance, et puis tout d'un coup cette présence de la mort, du temps qui passe, et une gravité qu'on soupçonne pas et qu'on retrouve après dans d'autres films, hein. On retrouve ça dans Le Curé d'Ars, par exemple. C'est un film, bon, sur le même mode, où c'est quoi cette histoire de mec qui est sur une île et qui se cogne tout le temps la réalité, qui veut fuir tout le temps et qui reste là. Voilà, il y a une apparente un apparent côté documentaire. Et puis tout d'un coup, une gravité qui s'installe sans qu'on sache pourquoi.
Ça tourne, les bacs.
Jacques est très très arrêté à ce qu'il doit faire.
Bernard Toublanc-Michel.
Il ne travaille pas du tout dans le vague. Il accepte l'improvisation quand ça lui suggère quelque chose qui est mieux que ce qu'il avait imaginé. Mais en général, il a tout prévu dans sa tête ou sur le papier. Il ne faisait pas de dessin, il ne faisait pas de maquette avant, mais il était très précis. D'ailleurs, c'est des décors qu'il connaît par cœur, qu'il ne s'aventure pas du tout.
Nous voici dans un plan, un des nombreux plans de Jacques Demy, Jean Coindé, c'est-à-dire que nous sommes dans le passage Pommeray à Nantes.
Voilà, nous sommes au niveau intermédiaire du passage Pommeray, qui est un passage couvert construit au milieu du 19e siècle, et qui reliait la partie haute, si on peut parler de partie haute, de Nantes. Nantes n'est pas une ville d'altitude, et la partie basse, c'est-à-dire la partie portuaire.
Et nous sommes entrés par la partie basse, et là tout de suite, on a une perspective magnifique de ce passage, et c'est vrai qu'on se retrouve dans le film.
Voilà, on a une perspective d'autant plus intéressante que le passage est parfaitement rectiligne, et qu'il est vitré sur pratiquement la totalité de sa structure. Autrement dit, il baigne une lumière, donc le cliché c'est dire une lumière d'aquarium, mais c'est toujours un petit peu ça. Hein. Une lumière zénitale, en tout cas comme disent les architectes, est une lumière qui est très douce, qui est très belle, qui est filtrée par toute la verrière.
Il y a des volets d'escalier.
Alors voilà, il y a trois volets d'escalier, hein, qui desservent donc trois niveaux, un niveau bas, un niveau moyen auquel nous sommes et un niveau supérieur. Alors, moi, je dirais que sur les tournages de Demy, j'ai deux références. La première, c'est un tournage tout à fait dans le bas du passage, à l'entrée du passage Pommeray, à l'endroit où, à l'époque, existait une armurerie
dont l'enseigne était un énorme revolver doré qui menaçait les passants. Un jour, j'habitais juste à côté, une centaine de mètres de là, en prenant le passage qui était une de mes voies parfaitement habituelles, hein, mes itinéraires habituels, je tombe sur un petit attroupement au bas du passage Pommeret, juste à l'entrée. Des gens regardent, il y avait une voiture de police, un panier à salade, comme on disait à l'époque, hein, qui était arrêtée.
C'était en 60.
Je m'arrête, badaud, je regarde, et je m'aperçois à ce moment-là qu'on tournait une scène. On tournait effectivement une scène de Lola, hein, la rencontre de Lola et de son amoureux, dans le bas du passage. À l'époque, les tournages étaient...
De Roland Cassard, c'est ça ?
Roland Cassard, voilà, c'est ça, j'avais... Son prénom, son nom échappait. À l'époque, les tournages étaient beaucoup plus simples qu'aujourd'hui. On n'avait pas nécessité de barrer toute la circulation, etc. Et Jacques Demy avait même utilisé la foule des badauds comme figurant naturel. Leur demandait juste, ne regardez pas la caméra, c'est tout ce que je vous demande. Mais vous pouvez rester là, vous êtes très bien là, avec sa douceur, sa gentillesse habituelle. Et il a donc tourné, je ne sais pas combien de prises, mais pas énormément.
Je vais répéter. Madame
Frédéric,
je peux avoir la musique ? C'est Lola, celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour c'est beau, celle qui plaît sans plaisanter, reçoit sans les dédommager, les hommages désommagés, les bravos des braves gars, les hurrahs, les viens avec moi. Celle qui rit de tout cela, qui veut plaire et s'en tenir là, c'est moi, c'est Lola.
D'ailleurs, il faisait des scènes plutôt longues. C'était pas un cinéaste à faire des plans, des chants, des contre-chants. Relativement peu.
Bernard Toublan-Michel.
Mais il aimait bien faire des promenades autour de ses comédiens, revenir de face par des mouvements de caméra. C'est un type qui a le sens de la caméra, donc qui sait s'en servir. Dans ses plans d'iséquences, qui sont quelquefois longs, on contrôle beaucoup moins le jeu des comédiens. Parce que c'était assez répété quand même. C'est répété, il fallait quand même que les comédiens aient appris le texte, répété, ce qu'il a ensuite prouvé dans les parabus, parce que là c'était non seulement répété, mais c'était. Puisque c'était
millimétré.
En plein. Voilà. Tout était enregistré, pré-enregistré avant. Jacques était très volontaire, mais très doux. Donc pas de mots d'autorité, pas de. Mais quand il voulait quelque chose, on sentait qu'il fallait le faire.
Il part pour 2 ans. Je ne pourrai pas vivre sans lui, j'en mourrai. Ne pleure pas, regarde-moi. On ne meurt d'amour qu'au cinéma. C'est trop cruel.
Les films musicaux de Demy sont doublement pose doublement question. D'abord parce qu'effectivement, il ressemble à rien de ce qui existe déjà. Enfin, les demoiselles de Rochefort, si. Mais Une chambre en ville ou bien Les parapluies de Cherbourg, ça n'a pas d'équivalent au cinéma. Ce n'est pas véritablement de la comédie musicale. C'est une forme de cinéma musical qui, tout simplement, n'existe pas ailleurs que chez Demy. Qui n'existe même pas chez les jeunes gens, les jeunes cinéastes qui, à l'heure actuelle, font des films avec des chansons. Des films de Demy ne sont pas des films avec des chansons. On ne sait pas comment les qualifier.
Des films chantés, on peut dire ?
On peut dire des films chantés, ou on peut dire ce qu'avait dit lui-même Demy à l'époque, des films enchantés. Et il avait absolument raison, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Demy se sert du chant comme d'un moyen de décaler le réel. C'est-à-dire que les petits héros des parapluies de Cherbourg, ce sont des gens bien ordinaires, à garagistes, la fille d'une marchande de parapluies, etc. Mais ils chantent pour s'exprimer, et ça ne surprend personne, et ils habitent dans un monde incroyablement coloré, où toutes les couleurs sont continuellement brassées et où les couleurs sans cesse ne cessent de nous dire leurs états d'âme. Alors, donc on est dans un autre monde, mais on voit bien que la musique et le décor, les couleurs, les costumes, servent en fait à installer une autre réalité, à installer un autre monde, donc à interdire l'effet de réalisme qui plomberait complètement le film s'il était ramené simplement à son anecdote.
Scène 4.
Nous aurons des enfants.
J'appellerai ma fille Françoise.
Et si c'est un garçon?
Ce sera une fille. Il y a toujours eu des filles dans la famille.
Michel Legrand.
On a passé environ un an à auditionner. On auditionnait devant tous les producteurs pour le cinéma, devant tous les éditeurs, pour les gens qui pouvaient payer les enregistrements, la musique et les chanteurs. J'étais au piano, Jacques, j'avais la partition sur le pupitre, je chantais moi-même tous les rôles en m'accompagnant, les sopranes, les basses, tout le monde, vous voyez ce que ça pouvait donner. Et puis on avait les producteurs dans le dos qui ne comprenaient rien, mais rien. Alors, de temps en temps, même, je dois vous avouer, je ne citerai pas les noms, mais des gens sérieux qui... Alors je commençais à jouer, puis au bout de quelques minutes de ça, j'entendais derrière moi. C'était, alors je me disais, qu'est-ce que je fais? J'arrête, je continue. Alors, bon, par timidité, je continuais. Et puis à la fin de l'audition, enfin en tout cas de ce qu'ils en avaient entendu, ils disaient sans exception tous, écoutez, oui, bon, vous êtes de jeunes gens charmants, mais je ne crois pas du tout que le public puisse rester une heure et demie dans une salle obscure en entendant des gens qui chantent les uns aux autres, passe-moi le sel, quelle heure est-il? Ça n'est pas possible, non, votre film, nous ne le ferons pas.
Tu n'as rien dit à ta mère?
Pas encore.
Pourquoi tu es lâche?
Il ne faut pas que tu te fâches, mais je sais ce qu'elle me répondra.
Quoi?
Ma petite fille, tu es folle, est-ce qu'on pense au mariage à ton âge?
Jacques avait un œil très sûr. Il y avait des choses qu'il n'aimait pas ou des choses qu'il aimait. Donc je pense qu'il m'a beaucoup aidée, justement, dans mon métier pour plus tard, à être comme ça, si précis. Je disais toujours qu'il avait une sorte d'objectif, vous voyez.
Rosalie Varda.
Vraiment avec un point très précis. Alors après, suivant les films où on a collaboré, c'était différent, si vous voulez. Mais moi, j'ai adoré ça. Attendez, c'est un plaisir inouï. Hein. En plus, on a fait des choses ensemble. C'est vrai qu'une chambre en ville, c'était quand même... vraiment du bonheur total. Et puis sur ces tournages-là, on est porté par la musique.
Vous pouvez parler des couleurs justement dans Une chambre en ville, parce que c'est vrai que là encore, on sent un tel rapport finalement entre là le décor, les murs, les papiers peints et les robes par exemple, ou les... C'est une symphonie de couleurs, quoi.
Pour Une chambre en ville, c'était Bernard Evin qui était le décorateur et on avait fait des séances de travail justement avec des... Il avait proposé à Jacques pas mal de papiers peints. Et une fois que Jacques avait validé vraiment les papiers peints, notamment le papier peint du salon de la colonelle, qui était absolument un rouge très, très violent, très fort, avec une vague rayure noire, etc. Après, on a réfléchi à comment les costumes allaient évoluer dans cet univers. Et Daniel Darieux a trois robes, une robe rouge d'ailleurs, une robe orange et un tailleur noir. Et justement, alors là, c'est pour le coup à des vrais partis pris, parce que sur un papier peint rouge, mettre une robe orange avec un châle rouge, c'est très violent, si vous voulez, comme rapport. A priori, c'est pas ce qu'on fait, si vous voulez. Mais Jacques aimait bien ça, il voulait donner par ses rapports de puissance de couleur aussi quelque chose de signifiant dans le costume et dans le personnage. Et d'un seul coup, la colonelle, elle est en noir, c'est déjà la fin du drame, elle est déjà, si vous voulez... presque dans le deuil, quoi.
I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly. Ciné joyeux, ciné blagueur, cinéma qui vous va droit au cœur.
I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you.
Ciné, roman, ciné qui ment, cinéma fait pour plaire aux amants. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi.
Jean-Pierre Berthomé, lorsque l'on pense à tous les films qu'a fait Jacques Demy, au fond 13, hein, vous avez souligné, il a fait juste 13 longs métrages, ce qui est peut-être pas forcément énorme, mais lorsque l'on pense à ces films-là et à la succession de ces films, est-ce que l'on peut se dire que ça correspond aussi à des moments de sa vie et dans sa vie ?
Il y a une évolution dans la filmographie de Demy qui suit assez précisément sa biographie. Bon, il faut toujours se méfier des équations un petit peu trop vite faites entre la biographie d'un artiste et son œuvre. Mais il est clair que, par exemple, il y a dans la première moitié de l'œuvre de Demy, elle se partage entre les films de femmes et les films d'hommes. Et les films d'hommes sont toujours des films où un jeune homme qui a l'âge de Demy lui-même est opposé à un père qui veut l'empêcher de faire ce qu'il veut et est amené à se révolter sous une forme plus ou moins grave, mais pour affirmer son indépendance. Et ça, c'est aussi bien Lola, la relation de Lola avec son directeur, que La Baie des Anges, bien entendu, que Model Shop, ce jeune homme qui entend son père au téléphone lui dire qu'il faut qu'il parte au Vietnam, etc. Ça, c'est vraiment tout un aspect là, très directement autobiographique, puisque on voit bien que à chaque fois, le héros a l'âge de Demy lui-même et a les préoccupations qui pouvaient être celles de Demy. Il habite en province, il rêve de partir, et il a peur de partir, et comment est-ce qu'on veut partir, et est-ce qu'il faut partir? Et puis les films de femmes en face, eh bien c'est Lola, c'est Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, qui sont des films où Demy projette alors là une vision de la femme qui pour moi est très 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 évidemment héritée de sa maman ou des femmes qui ont entouré son enfance. Il avait une maman absolument délicieuse, charmante, gracieuse, volubile, tout le temps en train de bavarder, magnifique, et on la retrouve immédiatement dans les films de Demy. Et puis, cette phase-là de l'œuvre de Demy, qui va se poursuivre après, je veux dire, les relations mère-fille, elles vont continuer à se prolonger jusqu'à Trois places pour le 26. Mais on voit bien que en même temps, l'autre source d'inspiration, eh bien, on va pas dire elle se casse, elle se modifie. Et elle se modifie à peu près en 1973, au moment où Demy, pour la première fois, devient père. C'est à peu près le moment où il va perdre son propre père. C'est le moment où lui-même devient père de Mathieu, et où toutes ces interrogations par rapport aux figures masculines opposées aux figures paternelles, eh bien, se reposent différemment ou tout simplement se dissolvent. Le film exemplaire pour ça, c'est bien entendu Le Joueur de Flûte, et dans Lady Oscar, ce sera une fille contre son père. Mais on sent bien que toute cette organisation qui nourrissait absolument l'univers de Demy et qui était celle d'un cadre familial où les rôles étaient parfaitement bien distribués, eh bien, c'est cette distribution des rôles qui se défait. Et c'est bien entendu le moment où Demy commence à afficher des interrogations sur l'identité sexuelle, sur ce que c'est qu'une relation, sur ce que c'est qu'un choix, commence à proposer dans Parking l'idée du « entre les deux, mon cœur balance », que comment puis-je choisir alors que j'aime également mon épouse et mon compagnon. Et ce sont quantité de préoccupations nouvelles qui avaient été, on s'en rend compte rétrospectivement, qui avaient été en quelque sorte réduites au silence auparavant, qui étaient là déjà présentes, et qui, dans les derniers films, apparaissent avec une liberté totalement neuve pour dire « non, le monde est plus compliqué ». Et pour finir de la façon la plus extraordinairement effrontée possible, c'est-à-dire avec trois places pour le 26, qui reprend une dernière fois la figure canonique de l'univers de Demi, c'est-à-dire la rivalité entre la mère et la fille pour le même homme, qui existait déjà dans Lola, mais qui va jusqu'au bout et qui fait de l'homme à la fois le père de la fille et l'amant de la mère,
et le père incestueux,
et l'amant de la fille.
Oui.
C'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout des implications que, par exemple, Peau d'âne ne gardait qu'entre parenthèses.
Salut.
Bonjour.
Vous êtes toute seule?
Joseph est allé conduire Boubou à l'école, Pépé dort encore. Vous partez?
Oui, j'avais deux jours de permission à récupérer. Je vais à Nantes, voir ma famille. Je vais en permanente.
En permanente, parce que vous êtes trop...
Donnez-moi une bière.
Oui.
Je serai de retour lundi matin. Juste le temps de préparer ma valise et adieu Rochefort.
On dit que Jacques Demy a fait de la ville de Nantes un des personnages de ses films, notamment de deux de ses films les plus importants, de Lola et d'Une chambre en ville. Et tout de suite, Jean Coindet, nous sommes donc sur un de ces lieux qui est un des membres peut-être de ce grand personnage qu'est la ville de Nantes, un de ces lieux qui n'est pas du tout innocent parce qu'on est en train, on est juste sur une pile de l'ancien pont transbordeur de Nantes, sur le long de la Loire.
Voilà, donc nous sommes sur la Loire, effectivement, et le pont transbordeur était un ouvrage comme on en a construit pas mal à la fin du 19e. Il servait à relier deux rives, les deux rives de la Loire, mais il était construit très très haut, c'est une structure métallique, construite très haut pour que les trois mâts puissent passer sans qu'il y ait d'opération, sans qu'il y ait de manœuvre à faire. Hein. Donc on pouvait franchir la Loire sur le transbordeur de deux manières, soit sur une nacelle suspendue, donc au-dessus de l'eau, ce qui permettait aux ouvriers des chantiers, qu'on va retrouver dans Une chambre en ville, hein, de passer d'une rive à l'autre, soit lorsque cette espèce de nacelle ne fonctionnait pas, on montait des marches. Alors là, c'était vraiment très très sportif. Hein. Il fallait monter les marches, traverser le tablier en hauteur, qui était, je sais pas, très très haut, au moins une cinquantaine de mètres, et redescendre de l'autre côté. Ça, il y avait peu de gens qui s'y risquaient. Alors le pont transbordeur, il fait partie, oui, de la mythologie de Demi. Et on va le trouver deux fois. On va le trouver une première fois, le vrai transbordeur. Et quand je dis le vrai, c'est va falloir préciser ça. Le transbordeur de Nantes. On va le trouver dans Une chambre en ville. Et on va le trouver, bien sûr, dans Les Demoiselles de Rochefort. Donc, ce sont les deux endroits, les deux personnages, cousins germains, hein, qui ont un petit peu hanté Demi comme lieu de passage. Je pense que c'est aussi à ça qu'il intéressait. Et je pense que Demi était encore assez attaché à cette idée de la ville traversée par de l'eau, cette sensation de fluidité que cela donnait à la ville. Et le fait si on appelait Nantes, à une certaine époque, la Venise de l'Ouest, c'était pas exactement un hasard. Demi, le garage du père de Demi, était sur un quai. Et je pense que Demi était toujours assez attaché, ne serait-ce que par la présence, les transbordeurs, on l'a dit, mais des marins. Hein, des marins français, des marins américains, qui eux aussi vont peupler, souvent comme silhouette, le décor de la ville.
Le pont transbordeur que l'on voit donc dans le plan d'ouverture d'Une chambre en ville, c'est vraiment ce que vous appelez le pont transbordeur mythique dans l'imaginaire de Jacques Demy, puisque ce plan qu'on voit, qui se fait d'ailleurs par l'ouverture à l'Iris, et qui nous donne sur la Loire le pont transbordeur, mais il n'est plus là le pont, donc c'est une reconstitution.
Oui, alors ouverture à l'Iris, bien sûr, hein, un hommage de Demi au cinéma muet, un hommage à un cinéma disparu et aussi à un objet disparu. Hein, puisque pour nous donner l'illusion que le transbordeur est toujours à Nantes, il va faire fabriquer par son décorateur une maquette. Hein, une maquette sur un panneau de verre, sur lequel le transbordeur va être constitué de petits éléments en bois, en métal, en papier, peu importe, et qu'il va filmer à contre-jour, de façon à ce que le soleil couchant s'encadre dans l'arche que forme le transbordeur. Il a gardé évidemment ce plan qui est absolument magnifique et qu'on appelle, lui, un glass shot. Pourquoi ? Parce que l'on filme à travers une plaque de verre que l'on place exactement d'un point de vue précis pour qu'en perspective, on restitue un décor d'éléments disparus. Donc c'est un trucage, oui, mais qui ne se donne pas comme tel. C'est un trucage qui va permettre à Demi d'évoquer tout un univers disparu en étant très scrupuleux, finalement, sur la vision que l'on pouvait avoir à l'époque depuis le pont.
Dispersez-vous, rentrez chez vous. pas d'incident.
Laissez-nous passer, nous ne partirons pas.
Nous voulons passer, laissez-nous passer. Nous sommes ici pour défendre nos droits.
Le tournage d'Une chambre en ville, alors vous y avez participé, je dirais, au moins.
Oui, j'étais petite main comme nombreux, comme de nombreux Nantais sur le tournage d'Une chambre en ville. Demi était venu, on en avait parlé à ce moment-là. Bon, il cherchait à la fois des décors et des lieux. Petit contexte politique, on est après Mitterrand. La première chose, c'est que on apprend que Demi va venir tourner à Nantes. Bon, on n'était pas non plus dans le Demi sacralisé. Hein. C'est-à-dire que Demi, maintenant, il fait partie des monuments historiques de Nantes, mais Demi avait du mal à tourner à ce moment-là. Il y avait eu la période américaine, Model Shop. On ne savait pas trop ce qu'il était devenu. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'a pas été retour de l'enfant prodigue, célébration, cérémonie, comice agricole et tout. Ça a été quelqu'un qui a du mal à monter ce film-là. Donc Christine Gouzrena, les producteurs, première rumeur sur Nantes. Oui, il va causer des manifestations de 56. C'est du patrimoine politique important ici. Hein. Bon, c'est cette mort d'ouvrier. Bon, il y a des débats un peu sur l'historiographie ou l'histoire. Bon, est-ce qu'on va en faire Demi? On est après Mitterrand. Il est dit qu'il va mettre des drapeaux bleu, blanc, rouge et non pas des drapeaux rouges et des drapeaux noirs dans ses manifestations. Ce qu'il fait, et tout. Donc, il y a déjà un débat politique un peu sur la trahison de Demi. Enfin bon, tu nous as trahis, camarade. Enfin, lui est totalement en dehors de ça et il le vit mal quand même. Enfin, il le vit difficilement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas si facile que ça. Et puis, il est fatigué, en tout cas. Enfin, en tout cas, fatigué. Ça, moi, je me souviens de son regard, un peu, ses paupières qui tombent un peu, et en même temps, ce sourire qui s'illumine. C'est assez étonnant. Ça, c'est Demi, quand on fait le glass shot, ou quand il a une scène, il est comme un gamin. Il est impatient comme un gamin, il est triste comme un gamin, et joyeux comme un gamin quand il réussit quelque chose. Vraiment, quoi. Et très fatigué le soir. Donc, on part pour ce tournage-là. 4 ou 5 lieux, il transforme un lieu près des chantiers, donc physiquement près des chantiers de l'Atlantique où on construisait des bateaux, hein, puisque on est quand même avec Berry en ajusteur-outilleur, ce qui est avec sa casquette, son pull jaune. Il y a Stévenin aussi, hein, Stévenin, c'était formidable. Et puis cette bourgeoise qui est Dominique Sanda, implacable, magnifique, une vraie vestale, quoi. Bon, et puis Piccoli qui, lui, aime d'amour cette femme-là. C'est un drôle de film, quand même. Enfin bon, c'est des amours contrariés terribles, quoi. Donc il est là pour raconter ça, il n'est pas là pour faire un film historique. Donc à partir de ça, l'histoire, il s'en arrange. Enfin bon, il s'arrange avec l'histoire. Non pas en termes de révisionnisme, mais je veux dire, ce qui l'intéresse, c'est encore une fois de faire un film enchanté. Sauf que la musique est plus grave, quoi. Je crois que moi, je suis assez admiratif de la musique de Colombier. Tout le monde parle effectivement de la grande collaboration de Demi avec Michel Legrand. C'est vrai, mais Colombier, je veux dire que bon, je vais pas vous le faire parce que je chante mal, mais nous sommes ici pour défendre nos droits. Laissez passer. Bon, je veux dire qu'il y a une espèce de rythmique, c'est martelé, c'est très fort, c'est souviens-toi, il fait jour. Enfin, les choses comme ça, c'est-à-dire que ça passe de la romance la plus légère, bleuette, fleur bleue, à une espèce de rythmique de marche militaire un peu guerrière, sourde, terrible, où les militants, alors j'ai les militants, quand on entendait cette musique-là, là, nous sommes ici pour défendre nos droits, dispersez-vous, rentrez chez vous, bon, une espèce de truc-là, qui martèle tout le temps, et puis à côté de ça, Madame la colonelle qui boit du muscadet, magnifique, Daniel Darieux, magnifique. C'est-à-dire qu'en gros, elle est pompette, je crois qu'elle dit à un moment dans le film, je suis pompette, elle boit du muscadet. Alors ça, c'est le très bel hommage au comité interprofessionnel des vins de Nantes, elle boit du muscadet, c'est-à-dire que, bon, okay. Voilà, cette grande aristocrate qui boit son petit mumu, comme on dit ici, c'est ça, Demi, c'est cette beauté-là.
Ils sont plus nombreux aujourd'hui. La dernière fois, ils ont lancé les gaz. L'air était irrespirable. Et comme d'habitude, Guilbeault est aux premières loges.
J'ai peur.
Allons donc, tu n'as rien à craindre.
Yves Aumont et Jean Coindé, on se trouve là, en plein milieu d'un plan, encore une fois, d'une chambre en ville. C'est d'ailleurs très curieux, on a l'impression, quand on regarde le film, que les perspectives sont tout à fait écrasées. Et bon, c'est certainement pas un hasard.
Oui, il y avait un effet d'optique. Moi, je me souviens, Penzer était installé là, parce que juste en face, il y avait effectivement l'atelier, costume, enfin, tout le monde se retrouvait là. Et Penzer était installé sous le porche, là, et il était installé avec un petit tabouret de plage, un petit fauteuil de plage. Et effectivement, ils avaient travaillé en optique assez sérieusement. Mais Jean était dans un camp totalement différent de moi. C'est-à-dire que lui, il était avec les prolétaires, moi, j'étais avec les forces de l'ordre. Jean oui. était côté cathédrale. Et moi, j'étais côté préfecture. Et toujours pour la géographie des lieux, là, on entend la cathédrale. Donc, Daniel Darieux est censé avoir, dans le film, son appartement au-dessus. Affrontement, manifestants, les prolétaires en bleu de travail descendent ici de la cathédrale. Il y a un drapeau qui est installé, un drapeau bleu, blanc, rouge qui est installé à la cathédrale. Les CRS sont au coin, donc si on se retournait en sortant légèrement du porche, on les verrait presque, ils sont, c'est juste là-bas au coin de la rue. Et ils attendaient véritablement les prolos comme de véritables CRS. C'est-à-dire qu'il y avait une cohorte à qui le deuxième assistant réalisateur disait chargé, quoi. Enfin, on était vraiment dans un registre qui était celui de la charge, hein, Jean.
Absolument. Alors là, c'est là où c'est aussi assez intéressant. Là, et là, c'est vrai que c'est le cinéma. C'est qu'il y avait donc le deuxième assistant qui était chargé de donner le moral à ses troupes, etc. Et Jacques Demy au milieu, qui lui craignait beaucoup qu'il y ait de la casse physique, que des gens soient blessés. Donc il disait aux gens, non mais tapez-vous dessus, mais s'il vous plaît, faites ça doucement, faites très attention. Vous dites, oh, allez-y les gars. Oui, mais faites très attention, mes amis, il ne faudrait pas qu'il y ait des blessés. Donc voilà, on se retrouve là entre la fiction et la réalité sans arrêt.
Et moi j'étais du côté, donc j'étais avec une petite cohorte de CRS, et comme très souvent dans les films, enfin comme toujours dans les tournages, dès qu'il y a la police nationale qui est représentée ou la gendarmerie, il faut qu'il y ait un représentant légal de ce corps constitué qui soit là. Et donc je m'en souviens toujours, si ils disaient, ah ben vous savez, c'est pas exact de son film, ce monsieur-là. Bon, parce que là, si j'ai bien compris, c'est les années 50. Ah ben, les boucliers des années 50, c'est des boucliers métalliques, hein, noirs, hein, et tout. Ça, vous voyez, monsieur, c'est un réformé 68. Alors, ben, je ne connaissais pas le réformé 68, et j'ai appris que le réformé 68 est un bouclier en plexiglas, dont le pivot, on enfonce donc la main derrière le bouclier, dont le pivot tourne parce que les étudiants, m'expliquait-il, tournait le bouclier et en même temps ça dépoitait le bras des CRS. Alors que le réformé 68, qui est un excellent modèle, permettait que le bouclier tourne sur le pivot sans déboîter le coude du CRS. Ça, je me souviens très très bien de ça.
Ne vous approchez pas et ne protestez pas. Éloignez-vous, dispersez-vous, rentrez chez vous, ne nous insultez pas.
Et alors, Jacques Demy, dans une scène comme ça, cette scène d'affrontement, c'est quand même, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de figurants, il y a des grands mouvements de foule, il y a effectivement des bagarres, etc. etc. Comment est-ce qu'il est, lui, dans une scène comme ça?
Le mot qui me vient à l'idée, c'est égaré. C'est-à-dire qu'il n'est pas avec nous, c'est ce que disait Jean, c'est-à-dire qu'il y avait des assistants qui étaient là pour surveiller chacune des troupes. Lui, il avait un petit escabeau, un peu plus haut. Il montait trois marches de son escabeau. Il regardait, et effectivement égaré. C'est-à-dire que difficile de dire s'il était content de la scène ou pas content de la scène. En tout cas, il extériorisait pas grand-chose, mais il y avait, oui, un regard égaré et quelque chose qui était de l'ordre de la tristesse. Ou tout d'un coup, ça se repérait. Juste un sourire, mais pas d'exaltation, genre « c'est bon, coupé, allons-y, c'était formidable ». Rien, pas un mot plus haut que l'autre. Quelque chose d'extrêmement ténu, en fait.
Et de la tristesse, pourquoi ?
Mais je sais pas, j'ai l'impression que moi, bon, il se savait malade, sans aucun doute, hein, il se savait malade à ce moment-là.
82.
Oui, c'est bon, il y avait, le visage était, le visage était triste, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si le cinéma était un élixir de jouvence, une piqûre qui se faisait. Il fallait voir, parce que là, il était joyeux, mais c'était quoi ? C'était un sourire qui arrivait et qui masquait un peu le regard triste. Moi, c'est vraiment... C'est comme ça que je le vois.
Le cinéma de Demy est difficile à définir, tout simplement parce que c'est un cinéma déguisé. C'est-à-dire, en surface, il est coloré, il est paré de jolies musiques, il est séduisant. Et, bien entendu, tout le monde, à l'époque, par exemple, a parlé des Parapluies de Cherbourg comme d'un film un peu sucré, alors que c'est un film d'une amertume extraordinaire. Et, en particulier, ce qui, moi, me frappe énormément, c'est le fait que, d'abord, un happy end, chez Demy, doivent toujours être payés par le malheur de quelqu'un. C'est-à-dire que si Lola retrouve Michel à la fin, à la fin de Lola, bien entendu, eh bien, il faut que ce soit au prix du renoncement à Cassard. Et elle se retourne, et il y a Cassard qui s'en va de son côté, et il y en a une qui est heureuse, mais l'autre pas. Et puis en même temps, ce qui est terrible chez Demy, c'est que quand il revient après sur ses personnages, et il aimait bien ça, l'idée de poursuivre les personnages d'un film à l'autre.
Oui, ça, c'est comme une vie, ça, comme toute une vie.
Oui, mais là, il nous dit, attention, je m'étais arrêté la dernière fois au moment où ça allait bien, mais ça a continué et ça s'est planté. C'est-à-dire que Lola, elle a retrouvé Michel à la fin de Lola, mais dans Model Shop, eh ben, elle l'a reperdu. Et le Jackie de Maistre de la Baie des Anges, elle sort du casino à la fin de la Baie des Anges, mais dans Jeanne Model Moreau, Shop, oui. On réalise qu'elle y est retournée. Et dans Les Demoiselles de Rochefort, les deux petits camionneurs qui se baladent, eh bien, l'un des deux, dans l'idée de Demy, ça devait être Guy, le héros des Parapluies de Cherbourg, qui avait perdu sa femme. C'est-à-dire, il avait gagné sa femme, et puis il l'avait perdue après. Et sans cesse, ainsi, Demy arrête au moment où on peut croire que les choses sont résolues, parce que le happy end est une espèce de loi du genre.
Mais je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup.
Et même s'il n'y en a pas beaucoup, ça, vous savez, le pire, c'est quand même celui des Demoiselles de Rochefort, où il avait prévu à un moment de finir avec le Maxence, le petit marin
Jacques Perrin,
qui fait de l'autostop au bord de la route, et au lieu de s'arrêter à temps pour qu'il puisse monter, le camion l'écrase.
Mais c'est mon nom.
Mais oui, tu sais bien, on t'a donné le nom de ton grand-père. Et toi, tu es mon petit Jaco.
Avoir vu si jeune mon nom écrit sur une tombe m'a donné le sens de la fragilité de cette existence.
Alors, oui, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Jaco de Nantes. On ne peut pas ne pas en parler parce que, comme vous avez dit, Jean-Pierre Berthomé, il a transformé Demy en film. Au fond, c'était peut-être son rêve.
Oui, moi je ne connais que deux exemples de cinéastes qui se soient ainsi transformés en film. Donc c'est Demy grâce à Agnès Varda, et c'est un cinéaste américain, Nicolas Ray, grâce à Wim Wenders. Jaco de Nantes, il savait très bien, par exemple, que c'était un film d'Agnès Varda. Ce n'était pas son film, mais en même temps, c'était le film qui allait lui permettre de devenir film. Agnès brossait de lui une espèce de biographie un peu imaginaire. Agnès n'avait pas connu l'enfant de Demy. Agnès n'avait connu l'enfant de Demy qu'à travers le récit que lui en avait fait Demy. Donc elle l'avait imaginé. Et je crois que ça excitait beaucoup Jacques Demy, cette idée que sa biographie devenait une fiction. Lui qui, déjà, avait tellement joué ce jeu-là de se servir des éléments de sa vie pour construire ses fictions, eh bien, il était en train de les offrir à celle qui partageait sa vie, qui était son épouse, la mère de son fils. Et c'était elle qui allait en faire une fiction, et à partir de là, les choses continuaient encore au-delà.
Alors, il venait en visite sur le tournage, il voyait un enfant qui jouait lui-même, il voyait sa fausse mère, son faux père, qui ressemblait d'ailleurs à ses parents. Il était content comme tout. Des fois, je me disais, mais est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'était comme ça? Il disait, oui, oui, j'y suis, j'y suis. Et j'ai eu une satisfaction énorme de penser que...
Agnès Varda.
Ce tournage lui faisait plaisir et que de se voir représenter lui donnait une impression de, je dis pas bêtement, mais de retour à l'enfance, c'est-à-dire de revivre son enfance qu'il aimait tant et qui était certainement ce qui lui faisait le plus plaisir dans des années quand même difficiles, des mois difficiles, où il peignait, il écrivait, mais enfin, il était quand même fatigué par moments, séjour à l'hôpital, retour et tout ça. Et de venir au tournage, d'être aimé par tous ceux qui savaient que c'était sa vie, les petits garçons qui lui demandaient des conseils, les faux parents qui lui disaient est-ce qu'ils étaient comme ça avec toi et tout ça. Et même quand on a fait des raccords de studio à Paris, dans le studio, on lui avait installé une espèce de chambre pour qu'il puisse se reposer et dormir. Tout le monde venait lui parler, les machines nous passaient sur la pointe des pieds, les gosses venaient lui parler. C'est-à-dire, il a vécu jusqu'à 15 jours avant sa mort. On a fini le dernier jour de tournage, la veille qu'il rentre à l'hôpital. Il a vécu dans le cinéma qu'il avait aimé, dans son enfance qu'il avait aimé, dans un studio, dans des décors, avec des gens qui disaient moteur coupé. Et je sais que je lui ai donné quelque chose qui était une sorte de cadeau pour quelqu'un qui est malade et hors de la pitié, de la charité, du côté infirmière au grand cœur, etc. Bien sûr que j'avais le cœur de l'aider, bien sûr que je me suis levée la nuit, bien sûr que je lui ai tenu la main quand il avait mal partout, mais je faisais mon travail de cinéaste et il était content. Parce qu'on a eu la chance, alors on a eu la chance avec Demi, de partager quelque chose qui est formidable, qui est une complicité dans croire que l'imaginaire est plus important que le réel, d'en croire que l'amour est plus beau que la difficulté.
Quand on est provincial, surtout à l'époque, c'est-à-dire qu'on oublie maintenant, je veux dire, la fascination du cinéma était grande parce que, bon, la télévision n'existant pas, c'était le seul moyen audiovisuel, comme ça, complètement fascinant, avec le cérémonial. Je sais que, par exemple, donc moi j'avais recréé chez moi une salle, mais il y avait pas un rideau, il y avait deux rideaux. Il y avait un rideau de velours rouge et puis il y avait un rideau blanc parce que une chose m'avait ému complètement, c'était les lettres projetées, ces lettres qui commencent à vibrer un peu quand le rideau s'ouvre. J'étais absolument en extase devant ça. Il fallait recréer ce cérémonial qui me paraissait indispensable. Le cinéma permet l'isolement, je veux dire. Je pars en voyage, toujours je m'assois dans un fauteuil, plus rien ne compte, plus personne. Je suis dans le noir et je suis absorbé par l'écran. Je me liquéfie complètement, ça y est.
C'est pas fini.
Allez, on y va, Chacon, c'est fini.
Des fois, le rideau s'ouvre encore.
Mais non, allez, viens, on y va. Papa va nous attendre. C'est fini.
C'est pas fini. Des fois, ils ont un autre rideau. J'attends.
Marcel, quand tu veux.
Ciné qui danse, ciné qui chante. Cinéma, ta bonne humeur m'enchante. Ciné, rieur, ciné, bonheur. Cinématographe. À toute heure permanent, ciné, cynique, ciné moqueur, cinéma violent pour bagarreur. Ceci n'est là, mais bien égal. Moi, ce que je préfère, c'est le
avec
musical.
Jean-Pierre Berthomé, auteur de Jacques Demy et Les Racines du Rêve, édition de La Talente. Bernard Toublan-Michel, réalisateur. Rosalie Varda, costumière. Mathieu Demy, cinéaste. Yves Aumont, journaliste à Ouest France. Jean Coindet, enseignant en cinéma. Les propos d'Agnès Varda sont extraits de ses entretiens à voix nue avec Gérard Lefort, ceux de Michel Legrand de l'émission Tire ta langue, et la voix de Jacques Demy. Archive INA, Martine Auger. Extrait de Jaco de Nantes d'Agnès Varda. Les répétitions de Michel Legrand ainsi que les extraits des films de Jacques Demy sont à retrouver dans le coffret de l'intégrale Jacques Demy, coédité par Cinétamari et Arte Vidéo. Remerciements à Cécile Ménanteau, exploitante du cinéma Le 14A à Nantes, ainsi qu'à Jean-Serge Pinault, ancien exploitant du même cinéma. Prise de son, Adrien Gaza, Yves Lehorse et à Nantes, Éric Audra. Coordination, Anne de Biran. Mixage, Philippe Carminati. Une émission de Simone Douek, réalisée par Pascal Rayet.
Ciné, roman, ciné qui ment, cinéma fait pour plaire aux amants. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Ciné, penseur, ciné sérieux. Le cinéma, c'est contagieux.
Une vie, une œuvre, se réécouter ce podcast partout en allant tout simplement sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Une page préparée et enrichie avec amour et passion par toute une équipe, Pascaline Bonnet, Juliette Testa et Lucie Rebière.